les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
Frontières toujours vives, c'est le titre de la rencontre organisée il y a quelques jours par l'IRD, Institut de recherche pour le développement, à la Villa Méditerranée. Les mobilités dans le monde se multiplient, tandis que les frontières se renforcent, tout particulièrement en Méditerranée. Face à ce paradoxe, une partie des migrants est conduite à recomposer son parcours, à revenir d'où elle est partie, ou bien à s'installer sur les seuils, à vivre sur les frontières. Pour en parler, Nicolas Puig et Alla Caroline Abouzaki, tous deux anthropologues, et Sarah Prestiani, membre du réseau international Migre-Europe et photographe, tous trois sont invités dans le cadre de ce premier apéro science à répondre aux questions d'étudiants, aujourd'hui ceux du master professionnel de journalisme juridique d'Aix-Marseille Université, accompagnés et préparés par le journaliste Thierry Noir, qui assure aussi l'animation de cette rencontre. Les premières questions sont posées par Claire Lou Muller à Sarah Prestiani.
Vous êtes photographe et experte en politique internationale d'immigration. Vous êtes également membre du conseil du réseau international Migre-Europe. Vous êtes particulièrement spécialisé sur les migrations dans l'espace méditerranéen. Pour cela, vous êtes allé directement sur le terrain, par exemple à Lampedusa, en Grèce, en France, en Libye ou en Turquie. Vous vivez aujourd'hui entre la France et l'Italie et travaillez notamment sur la violation des droits de l'homme. Donc, vous êtes de nationalité italienne et votre pays est particulièrement concerné par les questions de migration, notamment à Lampedusa. Est-ce que cela a eu un impact particulier sur votre engagement et dans quelle mesure ?
C'était des milliers d'Albanais qui fuyaient la guerre civile et qui rejoignaient les côtes des Pouilles et qui m'ont interpellée, qui ont commencé à m'interpeller à l'âge de 18 ans. De cette arrivée, aussi de l'accueil qui l'Italie leur réservait dans des campements, dans des hangars, dans les aéroports des Pouilles. Et donc, voilà, c'est ces premières images qu'ils ont commencé à tourner dans ma tête et qui finalement, au moment de décider un peu quel était mon parcours, sont retournées. Et donc, ces images sont retournées et retournent toujours parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très similaire dans les images des arrivées, mais malheureusement aussi dans la gestion de l'accueil. L'Italie a décidé que la gestion de l'accueil est toujours sur un état d'urgence, comme l'était dans les années 90, pour beaucoup de raisons, parce qu'on peut aussi arriver à toucher de l'argent différent puisque c'est un état d'urgence. Donc voilà, l'engagement qui m'a poussée en regardant ces images des bateaux qui venaient d'Albanie continue aujourd'hui telle quelle parce que la situation est similaire.
Très bien, merci. Vous êtes également photographe, donc est-ce que votre travail permet une approche spécifique de ces problématiques de migration et pourquoi en avoir effectué le choix? Et aussi, est-ce que votre travail de photographe est différent forcément par rapport à ce que font les autres chercheurs, par exemple en anthropologie?
L'utilisation de la photo, c'est un instrument. C'est un instrument pour raconter, pour dénoncer, faire circuler les images des migrants enfermés dans les camps en Libye. Ça permet de raconter beaucoup plus la réalité qui vit et les violations des droits humains et fondamentaux qu'ils subissent dans ces pays. Donc voilà, pour moi, la photo, c'est une façon de témoigner, de raconter, de dénoncer, d'informer. Mais aussi, c'est la façon de raconter quelque chose. Donc cette humanité que je rencontre quand je fais mes missions de terrain, c'est cette profonde dignité qui déroute parfois aussi les politiques migratoires. Je pense toujours à l'image des Afghans qui donc me ont offert, parce que c'était vraiment un cadeau qu'ils ont fait, ces regards droits et profondément dignes, qui contrastaient profondément avec les images qu'il y avait autour des jungles. Et finalement, j'avais plutôt envie de raconter ces images, ces regards fixes et dignes, plutôt que les images qu'on voyait autour, qu'ils ont par ailleurs été beaucoup circulés par la presse pour raconter cette invasion qui ne l'est pas du tout. Donc un regard autre et différent qui donc passe par ces regards dignes qui nous ont offert.
Les médias et politiques aujourd'hui se focalisent sur l'afflux de migrants en Europe et notamment en Europe occidentale. Mais en dehors de ces pays, est-ce qu'il y a d'autres régions concernées par la migration? Et est-ce que vous pouvez par là préciser au niveau international comment s'organisent les différents flux de migrants de leur pays d'origine vers les différents pays d'accueil?
Tout d'abord, les migrations sont beaucoup plus nombreuses, par exemple, à niveau interafricain. Donc, l'image des arrivées en Europe comme principal point d'arrivée est absolument faussée. Et ça permet de véhiculer cette image toujours faussée de l'invasion, qui ne l'est pas du tout. Donc, je donne juste des chiffres pour vous donner un peu la mesure. Ce sont 4 millions les réfugiés syriens qui ont laissé leur pays. La plupart se trouvent dans les pays limitrophes à la Syrie, au Liban, en Jordanie, en Turquie. Et il y a que 400 000 qui sont arrivés sur les territoires européens. Donc voilà, pour vous donner la mesure, effectivement, ne sont pas en Europe qui arrivent les plus nombreux immigrants. Et donc, voilà, c'est compliqué de parler des parcours. Il y a des migrants qui, donc l'étape de la migration interafricaine, c'est une étape qui est ensuite continue vers l'Europe. Il y a des autres qui arrivent déjà avec l'idée de l'Europe, et puis il y a des autres qui s'arrêtent dans les pays limitrophes. Et par ailleurs, ça, c'est les migrations les plus nombreuses.
Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus les chiffres ? Et par là, en fait, je comprends que vous souhaitez qu'on relativise le nombre de migrants qui sont arrivés en Europe, concrètement.
Absolument. Les chiffres, il faut vraiment les relativiser. Par exemple, en Italie, il y a 160 000 personnes qui sont arrivées cette année. C'est plus ou moins le même chiffre que l'année passée. Donc voilà, déclarer l'état d'urgence, c'est une volonté plutôt politique et réelle. Certes, les nombres ont augmenté à la frontière gréco-turque, mais voilà, là aussi, 2 millions en Turquie. Par ailleurs, en Turquie, à qui l'Union européenne veut externaliser, parce que les rencontres, les derniers conseils de l'Europe sont visibles justement externaliser la gestion de la migration et de l'asile à la Turquie, devient absolument absurde si on se rend compte que dans un petit pays tel que la Turquie, ou encore mieux avec comme les Libans, accueille 10 fois plus des migrants que 28 pays entiers qui correspondent à l'Union européenne.
In fine, selon vous, est-ce que chacun des pays de l'Union européenne représente des intérêts différents pour les migrants, et quelles sont au final les destinations privilégiées pour eux?
Mais ce qu'on a vu, c'est que les pays des premières frontières, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, sont aujourd'hui des pays plutôt des transits. La volonté des demandeurs d'asile, des migrants, des réfugiés, c'est plutôt celle d'aller vers les pays du Nord. On a beaucoup entendu parler de la Norvège, la Danemark, l'Allemagne, bien sûr. Et du coup, ça devient paradoxal, la politique européenne, les règlements Dublin III qui obligent donc les demandeurs d'asile à rester dans les premiers pays où ils ont mis les pieds en entrant sur les territoires européens, justement parce que cela va contre les choix personnels, va contre l'idée qu'un réfugié, c'est un être humain qui veut choisir d'aller comme toute personne peut choisir d'aller plutôt en Allemagne qu'en Norvège. Et aussi, met en lumière la disparité de l'état social entre les États européens, parce que c'est pas parce qu'en Allemagne, c'est parce que l'état social et donc les niveaux d'accueil est meilleur que les réfugiés veulent y aller. Donc je pense qu'à partir de la dimension des réfugiés, on pourrait réfléchir aussi à un changement des paradigmes aussi sur l'état social à niveau européen, et peut-être commencer plutôt par une mise à niveau plutôt qu'obliger les demandeurs d'asile et réfugiés à rester dans les premiers pays où ils arrivent.
Est-ce qu'à ce titre, vous pourriez nous parler de Dublin III ?
Les règlements de Dublin III, c'est les règlements qui prévoient les faits que donc un demandeur d'asile est obligé à demander l'asile dans les premiers pays où il arrive, puisque la plupart de ceux qui arrivent par bateau arrivent donc par question géographique en Italie, en Grèce et en Espagne, ils seraient théoriquement obligés à rester dans ces pays. Bien sûr, nous savons que d'un côté, les niveaux d'accueil et les standards d'accueil sont plus bas par rapport à d'autres pays européens, mais aussi, il faut tenir en compte, par exemple, la Grèce, les taux des statuts des réfugiés est très bas. J'ai les chiffres, par exemple, en 2014, ils parlaient que même pas 1% des demandeurs d'asile avaient obtenu les statuts des réfugiés, en sachant que la plupart, c'est des pays en fuite des guerres, des ressortissants des pays en guerre qui arrivent en Grèce. Donc voilà, c'est un élan naturel, celle de quitter ces pays. Donc la loi européenne les renvoie dans ces pays et surtout crée une espèce de parcours d'errance continue, parce que forcément, ils quittent l'Italie pour arriver en Norvège, la Norvège les renvoie en Italie et du coup ils essaient de répartir à nouveau. Donc c'est aussi une façon pour transformer et détruire l'asile, parce que du coup, force des raids dans tous ces pays, ils obtiennent l'asile nulle part, et donc il y vient des personnes sans documents, sans papiers. Donc voilà, c'est aussi une technique un peu dissimulée pour baisser les nombres des personnes qui arrivent à obtenir les statuts de réfugiés.
Dans cette situation, pour vous, quel rôle joue ou ne joue pas l'agence Frontex? Et à ce titre, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi ça consiste?
L'agence Frontex, c'est l'agence européenne en charge du contrôle des frontières européennes, des frontières maritimes, terrestres et aériennes. Je pense qu'il y a un message important véhiculé dans les journaux a été fait passer comme une agence de sauvetage. Par ailleurs, on a dit que l'opération Triton, qui se déroule au large du canal des Siciles, remplaçait l'opération Mare Nostrum, qui était une opération de sauvetage. Voilà, juste rappeler que c'est l'agence des contrôles et que, par ailleurs, juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, cette agence est présente au large du Sénégal en bloquant les pirogues qui départent justement du Sénégal, donc en créant ce qui est le concept d'émigration illégale, donc qui est d'ailleurs contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a le droit de quitter son pays. Donc voilà, c'est une agence d'ailleurs qui aussi se caractérise par un état d'opacité profonde. Et donc qui est présent sur tous les territoires. Donc ça là c'est important aussi pour rappeler l'importance de demander des comptes, de demander des informations sur ce qui est le rôle des agences européennes et aussi comprendre bien quel est leur rôle, donc dans ces cas-là, pas celui du sauvetage mais celui du contrôle.
Quelle politique sociale et migratoire devrait adopter l'Union européenne? Est-ce que chaque pays devrait être libre de choisir sa propre politique ou il faudrait plutôt au contraire harmoniser?
Je pense que l'harmonisation c'est intéressant, mais pas dans le sens où il va maintenant. Quand on a commencé à parler d'harmonisation, c'était en 1999, c'était le Conseil de Tampere, on parlait d'intégration des migrants économiques, lutte à l'immigration clandestine et intégration des réfugiés. Donc nous avons trois piliers. Nous voyons aujourd'hui, après 15 ans, que ces trois piliers, un a pris un énorme place à niveau des discussions de l'Union européenne, que c'est celle de la lutte à l'immigration clandestine, et les autres deux, ils ont une toute petite place dans la discussion. Donc je pense qu'il faut... harmoniser dans le sens d'avoir bien sûr, par exemple là, l'harmonisation ça pourrait être qu'il y a un statut de réfugié européen qui fait que les règlements Dublin 3 n'a aucun sens parce qu'une personne est réfugiée sur l'État européen qui peut donc circuler et choisir son pays. Donc ce n'est pas une harmonisation telle qu'il met non au rebais et surtout dans la militarisation de ses propres frontières. Donc voilà, une harmonisation mais en partant d'un présupposé différent de celle qui est aujourd'hui discutée dans les instances européennes.
Merci Madame Pastiani, je suis désolé hein, mais je suis le gardien du temps de parole, donc pour cette première intervention on a dépassé un tout petit peu les 10 minutes, mais tout va bien. Je vais vous demander de bien vouloir céder votre place à Nicolas Puig et à Benoît Vinstock. Merci, bravo. Alors Benoît Vinstock, qui est étudiant pareil en master de journalisme juridique et judiciaire et qui va interroger monsieur Nicolas Puig. Benoît, c'est à vous.
Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur Puig. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et vous décrivez comme un spécialiste des marges urbaines des pays arabes et notamment spécialiste du Liban, pays dans lequel vous avez vécu pendant plusieurs années. Puisqu'on a sous la main un anthropologue ce soir, j'ai envie de vous poser une question pour commencer cette interview qui peut paraître naïve, mais qui mieux qu'un anthropologue pour s'intéresser aux personnes? Qui sont-ils ces migrants? On entend beaucoup dans les médias que ce sont des médecins, des ingénieurs, énormément de personnes qualifiées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous préciser? Y a-t-il une majorité d'hommes, de femmes? Est-ce qu'on part par famille entière? Voilà, est-ce que... au final, est-ce qu'on peut dégager un portrait type du migrant?
Bonsoir, merci de me recevoir. Et je vais avoir un petit peu de mal à répondre globalement à votre question. Et comme je suis anthropologue, je vais partir des terrains, c'est-à-dire des lieux où j'enquête et où je rencontre les personnes. Et moi, j'ai travaillé justement sur des réfugiés palestiniens au Liban. Qui sont donc pour les trois quarts d'entre eux qui vivent dans des camps et à la façon dont ils essayaient de modifier les conditions de leur existence par une migration vers l'Europe en passant par la Grèce qui est le trajet à peu près classique qu'on va trouver aujourd'hui qui est le trajet qu'empruntent beaucoup de gens d'Afghanistan, d'Asie, de Syrie qui passent par la Méditerranée pour ensuite rejoindre la Grèce. Alors, les gens qui partent aujourd'hui, ce sont plutôt des jeunes des camps palestiniens, qui sont une génération de réfugiés qui, par la migration, tentent de regagner les lieux où s'est installée une diaspora plus ancienne palestinienne, en Scandinavie, en Allemagne, dans les pays européens.
Alors, juste peut-être, si vous pouvez nous préciser la diaspora, peut-être pour le public qui nous...
Oui, donc il y a une première phase où des habitants des camps palestiniens au Liban, pendant la guerre du Liban, donc de 1975 à 1990, ont eu l'opportunité de trouver refuge dans des pays européens, à une époque où les frontières européennes étaient beaucoup plus ouvertes qu'aujourd'hui. Et donc, ils ont pu s'installer en Norvège, en Suède, en Allemagne et au Danemark. Et ils ont formé une première génération. Ensuite, les frontières se sont fermées. Et d'ailleurs, ce phénomène aussi a été très général. Et c'est n'a pas concerné que les réfugiés palestiniens, mais les frontières européennes se sont fermées, ce qui a provoqué aussi cette espèce d'afflux que l'on pense avoir aux frontières, alors qu'en fait c'est juste la résultante finalement d'une politique particulièrement coercitive en matière d'accueil des populations. Et tout à l'heure Sarah précisait que le Liban par exemple accueille plus d'1,3 million réfugiés syriens et qu'on a à peu près quasiment le quart de la population libanaise qui est étrangère, et que tout ça se passe plutôt bien, et que donc on renacle à ouvrir les frontières pour des populations des quantités ou des flux de population beaucoup, beaucoup moindres.
Vous nous avez parlé du voyage, j'aimerais revenir dessus. Donc, ces migrants qui passent par la Grèce, mais outre le chemin emprunté, est-ce que vous avez pu avoir des échos sur les conditions du voyage? Quels sont par exemple les dangers que peuvent rencontrer ces personnes? Je sais que vous avez suivi un jeune migrant pendant quelques années, pendant son périple jusqu'en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner à travers cet exemple quelques exemples des dangers rencontrés dans le voyage?
Oui, oui. Cette idée du voyage, en fait, donc safar en arabe, c'est quelque chose qui structure toute la vie de ceux qui ne voyagent pas comme de ceux qui voyagent. C'est-à-dire que dans le camp, je vous parlais tout à l'heure de cette diaspora, on vit avec cet imaginaire transnational, avec ces images, avec ces familles qui vivent là-bas en Allemagne, qui reviennent l'été, parfois des mariages secrets. Mais les frontières se sont fermées et les différentiels de mobilité entre ceux qui ont la possibilité de voyager et ceux qui sont maintenus dans le camp et maintenu sur place se sont accrus et ont alimenté finalement cet imaginaire, cette volonté de partir qu'il y a dans cette génération dont je parlais tout à l'heure. Finalement, ce dont je parle est assez spécifique et une des configurations, si vous voulez, des déclinaisons des grandes migrations que nous avons aujourd'hui. Et pour partir, il n'y reste plus que la solution de la clandestinité et du voyage en clandestinité, qui est un des aspects de ce safar. Parce que il y a très peu de possibilités de voyager vers l'Europe d'une autre façon, ou vers l'Australie, ou vers le Canada, d'une autre façon. Donc ce voyage-là, c'est se mettre en place des espèces d'arches de Noé de la précarité. Quand moi, je travaillais sur ce thème-là, c'était en 2013, et on me racontait déjà ces foules de migrants qui se rassemblent sur la côte grecque pour embarquer sur des embarcations précaires, et traverser ensuite dans des conditions souvent assez périlleuses, comme on le sait malheureusement aujourd'hui et de façon très dramatique, vers la Grèce. Ça, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, ça a pris aujourd'hui une ampleur différente, aussi parce que les verrous qu'on a mis en Europe ont créé ces voies dérivées et dangereuses pour les gens qui les empruntent, et ça reste malheureusement la voie la principale de migration pour ces jeunes des camps palestiniens au Liban, comme pour toute la masse des gens qui subissent la guerre en Syrie, qui subissent des conditions de vie indignes en Afghanistan ou ailleurs, et qui n'ont que cette voie-là pour parvenir à trouver un asile précaire en Europe, et le plus souvent, comme c'était dit tout à l'heure, d'ailleurs, se retrouver dans la nasse grecque. Alors. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous en Grèce, et ils sont tous bloqués là-bas. Et même ceux qui arrivent à continuer le voyage vers des endroits où ils pourraient être accueillis par de la famille, comme je disais tout à l'heure.
Justement, on peut peut-être prendre cet exemple-là. Donc ils arrivent en Grèce, on a bien compris, après un voyage qui est clandestin la plupart du temps. Certains cherchent à rejoindre d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous parler alors de ce jeune que vous avez suivi, nous parler un peu d'aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Dans quel pays est-il? Est-ce qu'il est inséré? Est-ce qu'on peut donner des exemples d'insertion à travers ce jeune homme? Ou est-ce que l'insertion reste encore très difficile?
La personne, on peut la nommer, hein, c'est un artiste, Abdallah Werbe, qui est un musicien, chanteur, mais c'est un exemple de réussite. Lui vivait dans le camp, et je l'ai vu, c'était le camp de Nahr el-Bared, qui est au nord du Liban et qui a été entièrement détruit en 2007 dans des combats entre l'armée libanaise et un groupuscule islamiste qui avait investi le camp. Il vivait dans ce camp, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la façon dont le safar, dont le voyage, structure le présent des gens qui voyagent ou qui ne voyagent pas. Il vivait dans l'anticipation de quitter un jour cet endroit-là. Et donc, il vivait dans une espèce de nostalgie du présent permanente, comme s'il anticipait un départ avec un retour qui ne sera pas possible avant d'obtenir des papiers. Donc, ils vivaient toutes les choses du camp en vertu de leur prochaine disparition, ce qui donne un état quand même psychologique assez particulier de la vie de cette génération dans les camps. Il a réussi à partir, et quand il est arrivé, je l'ai accompagné, enfin, je suis allé le voir. Donc, il est arrivé au Danemark, et la première chose qu'il a faite, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que son mode de vie n'avait pas tellement changé. Il fumait toujours autant, il marchait beaucoup. La marche, comme le tabac, ce sont des espèces de sabliers de la quotidienneté dans des endroits où on est un peu pris dans une gangue d'un quotidien qu'on n'arrive pas à transcender. Et il était tout le temps sur Skype, en communication permanente avec le camp, à demander aux chebeb, aux jeunes qui étaient restés là-bas, de lui montrer les rues du camp, à se saluer, etc. Ça, c'est la première année, ce qu'on dit, que quand les jeunes arrivent à passer à l'étranger, la première année, ils sont comme ça, très en demande de nouvelles du camp. Puis ensuite, il a réussi à faire son trou, à faire sa carrière. Il a changé de ville et il a réussi à trouver sa voie, qui était une voie artistique, et à devenir un chanteur renommé dans la ville de Berlin.
Alors, c'est très bien d'avoir des exemples d'insertion comme ça. Vous avez dit en commençant cette interview que l'impression d'afflux de migrants qu'on avait aujourd'hui à nos frontières était surtout le résultat d'une politique qui est menée. Si je prends une citation, la semaine dernière, Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, déclarait, je cite, « L'UE a besoin de structures d'accueil où les migrants doivent, au besoin, être enfermés. » Il invite les États à faire usage de manière plus conséquente de leurs droits prévus par les textes européens, de placer en rétention jusqu'à 18 mois les étrangers en situation irrégulière afin d'organiser leur retour dans leur pays. Quel est votre sentiment face à ces propos?
Je pense que la réaction doit être citoyenne, elle doit être collective, c'est politique, c'est à nous de faire comprendre. Bon, nous, on peut amener un certain nombre d'informations, qui est l'extrême frilosité de l'Europe à accueillir l'autre, à ouvrir ses frontières, à être un minimum solidaire. Quand on entend des discours comme ça qui proposent à nouveau d'incarcérer des gens qui sont dans une demande de solidarité et d'asile, pour moi, c'est scandaleux. Bon, je pense que la réponse ne peut être que... On parlait tout à l'heure aussi de la possibilité d'avoir un statut de réfugié qui soit européen. On peut regarder ce qui se passe en Tunisie, où on a accueilli quelque chose comme 500 000 Libyens pendant la guerre, ce qu'il y a eu au Liban, ce qu'il y a en Jordanie, ce qu'il y a en Iran. Tous ces pays-là, qui ne sont pas des pays riches, qui ne sont pas des pays où les gens vivent dans le confort qui est le nôtre, font des efforts qui sont énorme, et nous, on n'est pas capable d'accueillir ne fût-ce que une toute petite partie de la solidarité mondiale et de jouer notre rôle, un rôle qui soit au moins à la hauteur de du poids néfaste politique qu'on exerce dans le monde.
Et puisque vous avez du coup cette expérience du terrain, est-ce que ce genre de propos dans les pays où on trouve beaucoup de migrants sont entendus? Est-ce qu'ils font peur ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que renforcer cet idéal du voyage?
Non, je ne sais pas si ce genre de propos-là sont entendus. Les migrants sont tout à fait au courant de la criminalisation de la migration et du voyage. Ils ont quelque chose à opposer à ça, que moi j'avais appelé l'éthique de la mobilité. C'est-à-dire qu'il faut se placer de leur point de vue. De leur point de vue, ils savent que ce n'est pas facile en Europe, ils savent que le voyage est dangereux, le voyage coûte cher, ils savent que c'est criminalisé, mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils doivent... Ils sont en charge de le faire parce qu'ils le doivent aux leurs, ils doivent mettre les leur en sécurité et que donc ils ont un droit qui est par ailleurs un droit à la mobilité qui est accordé quand même à une grande partie de l'humanité, et ils ne comprennent pas ce différentiel de mobilité. On vit dans un monde particulièrement ouvert où les flux, on nous parle des flux, du voyage, du tourisme, de la mobilité, etc. Et on laisse complètement, on enclave une énorme partie de la population mondiale. Eux ont envie aussi de participer à cette mobilité-là et de se mettre à l'abri, eux et les leurs, dans des endroits qui soient dans lesquels ils puissent accéder à une citoyenneté, je pense aux réfugiés palestiniens, ou accéder à une vie digne, tout simplement.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Puig. Merci pour cet éclairage. Vient le tour maintenant de Ala Bouzaki et de Samia Chabaoui. Samia.
Madame Ala Bouzaki, bonsoir. Merci bonsoir. D'être parmi nous aujourd'hui afin de, excusez-moi, de développer l'ensemble des questions donc liées au camp de réfugiés de Shatila, qui est situé au Liban et qui constitue l'essence même de vos travaux de recherche, puisque vous êtes doctorante donc en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Peut-être donc pour l'ensemble des personnes qui sont ici, qui sont amenées éventuellement à s'interroger donc sur le camp de Shatila, pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'il a été construit, par qui et pour quelles raisons ?
Il faudrait tout d'abord commencer par le commencement, qui est l'exil des Palestiniens de la Palestine mandataire en 1900, dans les années 40, et plus particulièrement en 1948 avec la création de l'État d'Israël sur les trois quarts de la Palestine historique. À cette époque, on a des centaines de milliers de Palestiniens qui vont gagner les pays voisins, notamment le Liban. Et on a donc 100 000 Palestiniens qui arrivent au Liban. Et une grande partie d'entre eux vont se diriger vers des camps, ou plutôt vont fonder eux-mêmes, d'une certaine manière, les camps. Parce que beaucoup de camps sont finalement nés de groupements informels. C'est le cas de Shatila, qui a commencé à se former en 1949 et qui est devenu vraiment un camp officiel en 1950, camp officiel dirigé par l'ONEROI, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient.
Nous savons que, selon vous, il est dommage de considérer, du moins d'appréhender, le camp de Shatila au regard du massacre qui a eu lieu donc dans les années 1980. Cependant, et brièvement, est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler et nous dire quels ont été les principaux protagonistes ?
Oui. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, quand on pense au camp de Shatila, on pense directement aux massacres qui ont eu lieu en 1982. Entre le 16 et le 18 septembre 82, ces massacres ont été perpétrés en fait par des membres d'une milice libanaise, les forces libanaises principalement, avec l'aide de l'armée israélienne. Depuis, on a vraiment enfermé le camp de Shatila et les Palestiniens dans ces massacres. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, c'est comme si les Palestiniens et le camp étaient devenus une partie de cet événement, et ce n'est pas cet événement qui est une partie de l'histoire des Palestiniens de Shatila. Or, finalement, le camp existe avant ce massacre, il existe aussi aujourd'hui, il s'inscrit dans une histoire longue, et on ramène toujours les habitants de ce camp à ce massacre qui est finalement c'est une histoire tragique. Et d'ailleurs, en 2006, il y avait un comité des familles dans le camp qui avait demandé dans un communiqué aux associations internationales et locales de s'intéresser au présent vivant du camp et non pas uniquement à son passé, et en particulier au passé des massacres.
Lors d'un article que vous avez rédigé, donc relatif aux réfugiés de Syrie se trouvant dans le camp de Shatila, Vous nous parliez de conflits de légitimité, de tensions entre anciens et nouveaux réfugiés. Qu'est-ce que vous entendez par ces notions-là, du moins par ce que vous entendez par conflit de légitimité ?
Alors, il faut savoir que depuis 2011, avec la révolution syrienne, il y a eu de nombreux Syriens et Palestiniens de Syrie qui se sont installés dans les camps de réfugiés palestiniens et notamment dans le camp de Shatila. Alors, au départ, il y a eu bien évidemment des mouvements de solidarité de la part de la population à Shatila pour accueillir cette nouvelle population qui arrivait dans le camp. Mais très vite, finalement, on a vu des tensions entre les différents, entre réfugiés syriens, réfugiés palestiniens de Syrie et les réfugiés palestiniens du Liban. Des tensions autour finalement des aides qui étaient distribuées, des ressources dans le camp. Parce que si on prend Shatila, c'est environ, on a eu une augmentation de 20% de la population avec l'arrivée des Syriens et Palestiniens de Syrie. Donc une augmentation de la population sans qu'il y ait finalement une augmentation des services qui sont proposés à la population. Et aussi, par exemple, l'ONEROI, qui, elle, a pris en charge les réfugiés, qui proposait des services aux réfugiés palestiniens de Syrie, donc ne dispensait pratiquement plus que des services aux Palestiniens de Syrie et pas aux Palestiniens du Liban. Et c'est ce qui est arrivé aussi, ce qu'ont fait aussi les associations.
Donc, est-ce que nous pouvons considérer que, finalement, le statut de réfugiés diffère ? Parce que nous savons que le Liban donc, n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951. Est-ce que, justement, cela se ressent par rapport au statut des réfugiés, des individus ?
Oui. Alors, le Liban n'est pas signataire de cette convention, ce qui fait que, déjà, là, quand on parle de réfugiés palestiniens ou réfugiés syriens, le Liban ne reconnaît pas le statut de réfugié. Et le traitement du Liban envers les populations non libanaises dépend des accords bilatéraux qui sont signés entre le Liban et les différents pays. Donc finalement, les Syriens et les Libanais et les Palestiniens sont considérés comme des étrangers au Liban. Après, les Palestiniens ont un statut particulier. Ce sont des étrangers, mais qui n'ont pas besoin de renouveler un permis de résidence. En ce qui concerne, par contre, les Syriens, c'est qu'il y a les accords qui ont été signés entre le Liban et la Syrie dans les années 90 ont favorisé en fait plus de mobilité, de facilité de circulation, d'accès au marché du travail pour les Syriens. Et ces statuts différenciés concernent aussi la prise en charge au niveau des organisations humanitaires. C'est-à-dire les réfugiés palestiniens, eux, dépendent de l'ONEROI au moment où les Syriens dépendent du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et donc, on va voir, cette différence de statut va s'exprimer par une différence des services qui sont proposés à chacune des populations.
Très bien. Vous qui êtes allé plusieurs fois sur place, donc sur le camp de Shatila, est-ce que vous pouvez confirmer ce que nous pouvons lire dans les journaux ou ailleurs de témoignages de personnes qui y vivent et qui s'offusquent littéralement du manque d'eau, d'électricité et de tout ce qui est relatif à l'éducation de leurs enfants ? Est-ce que cela est vrai ?
Oui, bien sûr. Les conditions dans les camps de réfugiés sont très précaires. Comme je vous ai dit, il y a à chaque fois une augmentation de la population sans que ce soit suivi par un développement de l'infrastructure et des services. Donc il y a un manque d'eau, d'électricité. On a des immeubles qui sont extrêmement proches les uns des autres, ce qui fait qu'on a très peu de lumière qui entre à l'intérieur des ménages. On a aussi très peu, finalement, il y a tout un problème par rapport à l'intimité qu'il peut y avoir à l'intérieur même des maisons, et donc finalement on parle peu de toute cette question d'intimité à l'intérieur des ménages.
En janvier 2015, les autorités libanaises ont imposé aux populations syriennes des visas d'entrée et des titres de séjour, ce qui est malgré tout quand même une première dans l'histoire des mobilités entre les deux pays. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ?
Bah, c'était face en fait à l'afflux massif de Syriens et de Palestiniens de Syrie au Liban. Bon, Palestiniens de Syrie dans une moindre mesure parce qu'on a plus d'un million de Syriens et près de 40 000 environ Palestiniens qui sont arrivés. Donc le Liban veut éviter qu'il y ait encore plus de réfugiés sur son territoire. Mais c'est aussi une manière, je crois, pour le Liban de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a très peu d'aide finalement versée au Liban pour faire face à cet afflux de Syriens.
Et pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour l'amélioration des conditions de vie ? Est-ce qu'il y a finalement une petite note d'espoir ou pas ?
Ben, il faudrait tout d'abord que les Palestiniens puissent pouvoir avoir accès à leurs droits, aux droits basiques comme le droit au travail, le droit à la propriété. Mais maintenant, par rapport à la question des réfugiés de Syrie, je ne sais pas si on peut avoir une note d'espoir dans le contexte actuel. Et la seule solution, ce serait de trouver une solution diplomatique, en tout cas en Syrie.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà. C'est la fin du premier round. Je vais demander à Samia... Non, veuillez rester à votre place. Je vais demander à Samia de bien vouloir laisser la sienne. En revanche, Madame Prestiani, Monsieur Puig, vous êtes maintenant invité à la tribune. Je vous cède bien volontiers mon siège. Et puis, voilà. Bah maintenant, c'est à votre tour. C'est au tour de la salle. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, il y a une question là-bas, d'ores et déjà. Donc, il y a une demoiselle aussi qui a un micro. Si vous voulez bien vous présenter, simplement donner au moins votre prénom.
Marcel Ibrahim. Donc, moi, je viens du Liban et vous avez dit que les réfugiés, il n'y a pas de problème de réfugiés au Liban. Le monsieur, désolé, j'ai oublié votre nom.
Monsieur Puig, Nicolas Puig.
Oui. Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème de réfugiés et ça m'étonne beaucoup que vous avez dit ça. Est-ce que vous l'avez dit pour votre auditoire européen, pour ne pas qu'il ait peur, parce que au Liban, je veux dire, la guerre civile, les réfugiés palestiniens ont participé en grande partie à la guerre civile. Ils ont fait, tout le monde a fait des massacres avec tout le monde. Et pour les réfugiés syriens, moi, honnêtement, j'ai peur que ça va être pareil, parce que, comme vous l'avez décrit, ils habitent dans des conditions... très inacceptable, très inhumaine, et c'est là que le terrorisme va grandir, etc. Donc,
Merci beaucoup, mademoiselle, pour cette question. Monsieur Puig, je crois que c'est vous qui êtes mis sur les charbons ardents.
Oui,
donc,
oui.
Voilà. Est-ce que tout se passe bien ou est-ce que vous nuancez votre propos ?
Relativement à l'afflux de je pensais aux réfugiés syriens récents. Hein. Je ne parlais pas de la guerre et des réfugiés palestiniens de 1948 et de ce qui s'est passé évidemment pendant la guerre civile. Relativement à l'importance de la population qui est arrivée, je disais tout à l'heure, c'est le quart de la population libanaise, les choses se passent relativement bien. Espérons que ça ne se dégrade pas vers du terrorisme, vers des problèmes, etc. Bon, ça a commencé en 2011 quand même. Et on voit que pour l'instant, ça tient dans des conditions très précaires, avec des financements qui sont de plus en plus rares. Mais aussi beaucoup d'initiatives locales, des associations qui travaillent quand même à essayer de scolariser les enfants. Donc il y a quand même des choses qui fonctionnent. Je disais cela au regard de l'Europe et de la faiblesse, du peu de solidarité dont témoigne l'Europe vis-à-vis des réfugiés syriens, et y compris des réfugiés syriens qui sont actuellement au Liban. Je pense que ce n'est pas au Liban, que ce n'est pas à la Jordanie d'assumer un fardeau aussi important et que ce serait bien d'avoir un peu plus de solidarité.
Et que la communauté internationale vienne aussi aider, au moins financièrement, vienne aider le Liban.
Je vais prendre mon tour. Donc Olivier Esran. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu les causes par rapport aux conséquences aussi Et est-ce que l'Europe a réellement, aurait beaucoup de mal, si on fait un calcul, même si on prenait la totalité de la population syrienne, 21 millions à peu près d'habitants, je pense qu'on est à peu près 21, 22 millions d'habitants, 20 millions, 22, sur 480 millions d'habitants en Europe, 500 millions, ça doit faire 1,22, 1,23e, ça doit faire 2-3%, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà eu, si on reprend en 45, 46, 47, quand on reprend les migrations entre l'Est et l'Ouest, d'ailleurs le rapatriement des populations allemandes au moment de la constitution des deux blocs, on était déjà à 14 ou 15 millions de personnes qui avaient fait quelques années avant la conquête de l'Est. Hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, pour cette époque-là, tragique. Donc, en définitive, l'Europe... Moi, je suis originaire d'un village, d'un bourg dans la Drôme, qui est village des Justes, et qui a multiplié par 2,5 sa population pendant 5 ans, 6 ans, pour l'accueil, justement, de réfugiés. Le nom du village,
c'est Dieu le connaît, mais c'est...
Tout le monde le connaît, je pense. Enfin, bon, c'est Dieu le Fille dans la Drôme.
Il y a quelques étudiants là qui ne le savent voilà. Peut-être pas, donc c'est pas mal de...
C'est Dieu le Fille dans la Drôme.
De rappeler que Dieu le Fille a eu un comportement exemplaire.
Dieu le Fille, c'est un cas particulier. Plus de 2 fois sa population. Un maire, une administration et de la société civile, c'est-à-dire pasteurs, curés, qui ont trafiqué les registres de baptême, qui ont trafiqué les registres de naissance, pour permettre justement l'intégration de ces populations. Donc on sait qu'on a pu le faire. Aujourd'hui, on doit pouvoir le faire dans des pays qui sont beaucoup plus riches que ceux qu'ils étaient dans les années 30-40. Voilà, je pense qu'il y a la volonté.
Merci, monsieur. On va demander à Sarah Presciani d'intervenir maintenant et de répondre. Prenez votre micro.
Sur la question de l'accueil, est-ce que l'Europe sera intégrée? Moi, je pense que ce n'est pas une question des capacités, c'est une question de volonté que l'Europe n'a pas. Donc, je vais absolument dans votre sens. Et surtout, il y a aussi une question profondément politique. Et quand j'entends politique, j'entends des propagandes politiques. Il faut donner des réponses à un électorat qui est de droite et qui est quand même la majorité du Parlement européen. Il faut se rappeler. Donc, en théorie aussi de la population européenne, si on fait des prospectus. Je le dis parce que, par exemple, l'argent qui est mis, les forces, les énergies qui sont mises dans les processus de fermeture des frontières, finalement, n'obtient absolument pas le résultat. Mais par contre, au fond de la propagande politique, ils obtiennent un résultat tragique, c'est que les routes deviennent de plus en plus longues. Donc cette errance qui s'est produite à nos frontières se prolonge dans les temps, avec des conséquences psychologiques, des situations, des traumas psychologiques qui se multiplient, et notamment aussi un nombre de morts qui se multiplie. Il faut rappeler que depuis janvier 2015, il y a plus de 3500 morts à nos frontières, des personnes qui ont essayé de franchir la frontière. Tout le monde a pleuré face à la photo des petites Thaïlandes, et puis il y a plus de 100 autres enfants qui sont morts après ces petites aux frontières. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi tout un discours, et parce que je pense que c'est très important, si on regarde l'évolution du discours politique européen, à l'endemain des naufrages, il y a toujours des larmes des crocodiles qui coulent, et donc en volonté de donner une solution au naufrage, et finalement la réponse qui est donnée donne absolument l'effet opposé. Donc c'est automatique, dans le sens qu'on a justement le naufrage du 18 avril a donné vie à l'opération Triton de l'agence Frontex qui n'est pas une opération de sauvetage. Et puis si on regarde aussi la multiplication des murs aux frontières européennes, c'est au Temeneia, et puis c'est la frontière bulgo-turca, et puis c'est la frontière gréco-turque, et puis c'est maintenant la frontière roumain-croatie, et puis maintenant la Slovénie qui annonce un mur. Donc voilà, je pense que et tous ces murs ne vont pas arrêter la migration, ils vont créer un effet propagande. Donc je pense qu'il faut aussi regarder les volontés européennes dans ces perspectives, donc pas forcément un manque de capacité. Je le disais tout à l'heure avec la comparaison entre 28 États et un État comme celui du Liban, aussi de la Turquie, mais une volonté politique pour répondre à l'électorat des droits. Donc ça, selon moi, ça peut être une réponse, un biais de compréhension pour comprendre.
Ouais, bonsoir, je m'appelle Xavier, je viens de Barcelone. Et ma question est avec tous ces trucs de migrants, en fait, de réfugiés. Toujours on entend le média qui parle de migrants, Mais en fait, peut-être surtout maintenant en Syrie, peut-être ils sont le 90% sont des réfugiés. Mais ça me semble que normalement, on considère qu'ils sont des migrants. On les met dans le centre de détention et après, on essaye de voir s'ils sont des migrants ou des réfugiés. Mais pas l'inverse. En général, on ne fait pas l'assumption qu'ils sont des réfugiés. On les laisse bouger, habiter, je ne sais pas quoi. Et après, on regarde s'ils sont des réfugiés ou pas. Est-ce que vous pensez que ça serait plus humain de faire la deuxième chose, de considérer qu'ils sont des réfugiés et pas directement, et pas des migrants, le mettre dans le centre de détention et après...
Madame Presciani.
Je pense que l'exemple est très actuel hein, parce qu'il y a une nouvelle politique qui a été mise en place, c'est l'approche hotspot, on l'appelle. Et justement, cette approche hotspot qui vient d'être mise en place en Italie et en Grèce en échange du fait de la relocalisation, donc le fait qu'on récupère des demandeurs d'asile des Grèces et d'Italie, bien sûr, qui irakiens, syriens et érythréens. Donc l'approche hotspot, c'est justement dans cette logique pervers. Donc tout d'abord, dès qu'ils arrivent, on les identifie. Et puis, on essaie de trier entre les bons et les mauvais migrants, donc les demandeurs d'asile et les migrants. Alors, tout d'abord, c'est l'hotspot, c'est un lieu fermé, donc c'est un lieu d'enfermement. Donc, d'abord, ça, c'est les paradoxes de l'accueil enfermé. Et puis surtout, cela est fait, l'identification est faite, parce que j'étais il y a 3 jours en Sicile, et je l'ai bien vu, est fait à 2 heures du débarquement. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, des personnes qui ils ont passé les déserts du Ténéré, ils ont été enfermés en Libye, ils ont pris un bateau, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'identifie, il y a un papier qu'on leur demande, donc tu es venu ici, pourquoi ? Donc aussi, question piège, s'il répond pour le travail, bien sûr, on peut bien sûr imaginer qu'un demandeur d'asile répond pour le travail, parce qu'il y a les demandeurs d'asile qui veulent aussi bien travailler. Comme on peut imaginer, et bien s'ils répondent pour le travail, et bien alors c'est des migrants économiques, et donc soit ils sont mis dans un centre de rétention pour leur expulsion, soit on leur donne la notification de refoulement indifféré. Donc ça veut dire, avec tes propres moyens, vas-y à l'aéroport des Roms, et puis retourne dans ton pays d'origine, donc merci pour les voyages. Donc voilà, et c'est le mot, c'est la tendance, et cela va se multiplier justement avec ces moyens. Qu'on met en place, là aussi en opacité sur cet hotspot, ça semble à mesure gentille d'accueil, alors ce n'est pas du tout parce qu'il fait vraiment les tri. Donc bien sûr, il faudrait, et surtout il faudrait arrêter de penser qu'à Lampedusa c'est un centre fermé, donc à un moment il faut aussi partir du fait, et donc contraster l'idée de l'Algérie qu'il faut enfermer jusqu'à 18 mois, que ces demandeurs d'asile, donc l'accueil n'est pas dans un lieu fermé, et surtout voilà, qu'il faut aussi laisser le temps pour que l'histoire ressorte et aussi les respects pour ces traversées à laquelle ils ont été obligés, parce qu'il y a des politiques qui ferment les frontières. Donc voilà, je pense qu'il faudrait partir aussi de là.
Merci, Madame Presciani. Une autre question dans la salle ?
Merci. Oui, Jean Longlander. Ma question, ça sera sur l'incertitude extrême qui prévaut en France comme en Europe en général, enfin peut-être plus en France qu'en Allemagne d'ailleurs, beaucoup plus. Moi, je suis personnellement en phase complète avec l'esprit de solidarité et d'indignation qui nous porte ce soir, semble-t-il. Mais je voudrais mettre l'accent sur la difficulté. Ces réfugiés arrivent après des années de campagnes violentes en France, anti-musulmanes. Elles arrivent à un moment où les idées racistes et xénophobes se sont emparées d'une minorité importante de la population. Donc, pour ma part, après avoir partagé ce soir et auparavant beaucoup de vos idées, enfin toutes même, je vois que de l'incertitude. Est-ce que vous avez des éclairages sur des pistes positives à nous dire ?
Ah, hélas. Alors, qui parmi vous peut être porteur d'un message d'espoir ? J'ai bien peur que la mission soit vraiment extrêmement compliquée. La mission que vous confiez à nos intervenants est un peu compliquée. Qui est-ce qui veut répondre ? Monsieur Puig, est-ce qu'on peut avoir un message d'espoir, une lueur ?
Oui. je retournerai la question. Parce que finalement, il est assez peu. Enfin, c'est normal de s'interroger sur les flux, les politiques, etc. Mais qu'en pensent les réfugiés ? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation, du fait de, de faire ce voyage-là, cette migration. D'ailleurs, je voulais aussi intervenir à propos de migrants, réfugiés, etc. Moi, j'emploie migrants comme une catégorie générique. En fait, c'est toute personne qui se déplace. Je ne suis pas très sûr de la pertinence d'essayer de distinguer, d'un point de vue un peu général, le migrant économique du réfugié, parce que souvent les catégories sont assez perméables les unes des autres. Et puis je ne vois pas aussi pourquoi quelqu'un qui voyage pour essayer de s'en sortir économiquement devrait être défavorisé à quelqu'un qui voyage pour essayer de s'en sortir sécuritairement. Après tout, c'est la sécurité des gens qui est en jeu à chaque fois. Donc c'est encore une façon de restreindre finalement, de restreindre et de catégoriser pour une nouvelle fois normer finalement cette question de la migration. Alors pour revenir à l'islam, je me rappelle des discussions qu'il y avait dans le camp avec les jeunes qui s'apprêtaient à partir ou qui commentaient la politique européenne et qui se disaient « Ouh là là, attention, en Europe, il y a un problème avec l'islam en France, avec le voile, etc. » ils sont très bien informés finalement de ce qui se passe ici. Et comme je disais, ils savent que ils savent que tout n'est pas rose, ils savent que c'est pas un Eldorado, ils savent exactement ce qui les attend, et y compris, ils savent que le racisme existe, mais ils le vivent aussi là où ils sont. Ils vivent des situations là où ils sont qui font que ils préfèrent quand même voyager, et c'est en connaissance de cause qu'ils font ce voyage. Après, ceux qui sont en Europe, en fait, insiste peu sur cet aspect-là. Et bon, pour ce qui est des Palestiniens et des gens que je connais, ils sont en Europe du Nord. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il n'y a pas d'IGA. Il y a un gros mouvement de raciste, anti-islam, anti-musulman. Mais en tout cas, de leur point de vue, ce n'est pas quelque chose qui va profondément modifier le projet de la migration.
Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur là-bas, vous avez le micro.
Bonsoir, je m'appelle Arnaud, je donne des cours d'anglais dans un lycée, mais je donne aussi des cours de français, langue d'intégration, à des migrants que je peux repérer dans des squats qui vivent à Marseille. J'avais juste une observation. L'Europe, c'est 28 pays avec des chefs d'État très attentifs à ce que pense leur population et à l'opinion publique. Donc mon observation, ce serait que pour comprendre la frilosité de l'Europe, plutôt que de dire l'Europe ne fait pas ci ou l'Europe ne fait pas ça, ce serait peut-être de faire une enquête anthropologique justement sur ce que ressentent les populations en prenant un échantillon dans chaque pays, puis voir un peu ce que la population ressent. Et puis aussi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous préconiseriez si vous aviez le pouvoir de dire oui, on accepte un certain quota de migrants ou tous les migrants, comment vous voyez l'organisation des choses? Parce que si on accepte des millions de migrants, on ne va pas les mettre à Neuilly ni sur la Corniche à Marseille. Où est-ce qu'on va les mettre et comment on va faire? Donc effectivement, on a un devoir humanitaire vis-à-vis des réfugiés, mais on doit penser aussi concrètement, pragmatiquement, que les populations européennes, elles ont aussi de bonnes raisons d'avoir peur. Elles ont aussi de bonnes, elles vivent aussi des difficultés. Et donc peut-être il serait bon d'aller aussi enquêter sur les populations plutôt que de dire l'Europe, de voir ce que les gens peuvent ressentir, parce que leur ressenti n'est pas faux. Il est légitime.
Merci.
Il peut
monsieur.
Être légitime.
Merci. Je crois que Madame Pressiani était volontaire pour répondre à votre question.
Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je pense que la population, là, ce qui émerge en regardant un peu les mouvements des populations, les réactions de la population européenne, c'est vraiment un mélange entre la solidarité et effectivement la réaction d'hostilité. Moi, personnellement, je travaille depuis pas mal d'années sur ces questions-là. Je n'avais jamais vu temps des mouvements de solidarité. Alors voilà, ça c'est mon côté positif que je voudrais apporter. Je crois que si on regarde à Lesbos les centaines de volontaires qui vont dans toute la route balkanique, voilà, je pense qu'il faut aussi commencer à regarder par ce mouvement de solidarité qui émerge et qui émerge de façon plus en plus importante. Et pour répondre à votre question, je vous inviterai vraiment à lire les dizaines d'études qui sont faites à faveur et qui démontrent que finalement la réponse à la liberté de circulation, ça serait une réponse adéquate. Et cela est démontré parce que finalement, cette mur, alors déjà assez inutile si ce n'est pas pour tuer des gens, ne font que créer cet espace des mouvements qui sont bloqués. Dans le sens, les migrants arrivent en Europe, et ben forcément, ils ne retournent pas chez eux. Il n'y a pas un processus de mobilité circulaire aussi, puisque une fois qu'ils viennent ici, c'était autant difficile. Ils ont mis autant au péril leur vie pour arriver. Et puis, justement, on a créé aussi dans les pays d'origine une espèce de mythe, comme tu disais, des espèces d'imaginaires, des regards vers ces pays, puisque c'est... Donc, du coup, il n'y a pas de cette mobilité. Donc, je pense, voilà, c'est parce que ma réponse, c'est la liberté des circulations. Voilà, je pourrais passer des heures pour dire, mais bon, je vous invite parce qu'il y a vraiment des études aussi de l'UNESCO et de nombreuses autres études qui démontrent que cela, c'est une solution et qui, au contraire, permettra, autre à éviter les morts aux frontières, d'avoir aussi une population migrante beaucoup plus saine à niveau psychologique qui est présente sur les territoires, aussi en mobilité et en défense des droits fondamentaux qui, effectivement, c'est que des gouvernements, mais qu'ils ont bien signé des chartes des droits fondamentaux de tous ces pays.
Merci, mademoiselle. Il me semblait qu'il y avait une question. Ah ben non, quelqu'un d'autre a pris le micro. Je vous en prie. Mais allez-y, c'est bon. Présentez-vous, bonjour. Posez la question.
Donc, je m'appelle Sarah, j'habite à Marseille. Je tenais pas forcément à intervenir, mais il me semblait que là, suite à l'intervention précédente, ça valait peut-être le coup. Juste un point sur effectivement la question de qu'est-ce qui se passerait si on ouvrait les frontières. Alors bon, je pense que comme l'a dit Sarah, il y a énormément de travaux qui ont été faits là-dessus, mais je pense que il faut commencer, et notamment dans les médias, à traiter cette question comme une question plausible, c'est-à-dire traiter la question de la libre circulation pas comme un espèce d'épouvantail qu'on nous opposerait à la situation actuelle, comme du coup on conclurait comme conclusion naturelle que comme on ne peut pas avoir la libre circulation, on est obligé d'avoir la situation actuelle. Et moi je pense que c'est vraiment indispensable qu'on commence à réfléchir réellement aux conditions et aux conséquences que pourrait avoir la libre circulation dans nos pays. Donc ça, c'est juste un point. Sur le logement, par exemple, il me semble qu'il y a énormément de logements vacants, inoccupés, et ça, ça n'a rien à voir avec l'immigration. En général, les crises économiques n'ont rien à voir avec l'immigration. Voilà, juste pour faire un petit point, deux arguments comme ça qui me viennent. Mais,
est-ce que vous avez une question,
s'il vous plaît, mademoiselle ? J'ai tout à fait une question, et c'était une question, en fait, alors... peut-être pour nos invités, mais en fait aussi pour les organisateurs. Moi, j'avoue, je suis venue un petit peu par hasard et j'avais pas conscience que c'était organisé notamment à l'initiative d'étudiants qui vont devenir de futurs journalistes. Et je pense que vraiment, il y a un vrai enjeu sur la question de l'immigration et le traitement médiatique de l'immigration. Et donc, du coup, j'aimerais... alors, peut-être que comme on peut pas poser de questions aux questionneurs, enfin aux intervieweurs, peut-être qu'on pourrait poser des questions, en tout cas au moins aux personnes qui étaient invitées aujourd'hui, de savoir comment eux, dans la manière dont ils gèrent leur parole publique, la question du rapport aux médias se pose, et comment ils règlent cette question, comment ils gèrent leur parole publique, c'est là une question.
Oh là, c'est une question. Comment vous gérez votre parole publique? Oh là. Est-ce que vous la gérez d'abord? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des stratégies ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance?
J'en suis pas là. J'ai très peu de demandes. D'ailleurs, je suis très content d'être là et de. Enfin, c'est toujours, je pense, une très bonne opportunité de venir, de venir un peu parler des recherches qu'on fait et d'apporter le point de vue qui est le nôtre sur ces questions-là. Et en l'occurrence, comme vous l'avez compris, moi, c'est de faire remonter, si vous voulez, la façon dont les migrants considèrent le regard qu'ils portent sur leur propre trajectoire. Comment ils s'inscrivent dans le monde, comment ils s'inscrivent dans une circularité, dans une temporalité, leur propre point de vue sur leur situation, ça me semble important et c'est quelque chose que je, c'est un peu la médiation qui me semble utile à faire, parce que c'est quelque chose qu'on entend rarement. La gestion de ma parole publique est très simple. Je suis assez peu sollicité. Et quand je suis sollicité, c'est en général pour des publics...
avertis.
Des publics, oui, voilà, avertis.
De spécialistes.
Mais encore une fois, et puis il y a une autre chose, c'est que quand même, d'un autre point de vue, c'est important de parler de nos recherches et dès que cela est possible, d'en faire état, parce que ben, c'est une recherche qui est publique. Mmh. Et ce n'est pas que l'aspect éthique de la médiation par rapport à un terrain qui nous engage, c'est aussi l'aspect éthique d'une profession de chercheur qui suppose aussi la restitution du travail qui est fait.
Merci. Est-ce qu'il reste encore une question, monsieur ? Allez-y, c'est à vous.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Florian. À l'instar de mes camarades, je fais partie du master journalisme et juridique, donc de monsieur Thierry Noir. J'ai une question pour vous, madame Prestiani. Donc, au fil de nos recherches, nous avons vu que vous êtes rendu dans plusieurs camps de migrants à travers le monde, notamment au Mali, au Liban ou en Libye. Également dans le camp de Calais, donc appelé par les médias et les politiques comme la jungle de Calais. Donc, ma question est simple, savoir si vous avez vu des différences en termes de conditions de vie dans le camp de Calais et dans les camps que vous avez visités à travers le monde.
Justement, une des travaux que j'ai fait avec Michel Agé, c'est un ouvrage qui s'appelle « Je m'y suis réfugié là, bord des routes en exil » et qui veut justement partir des points, des similitudes très forts entre différents campements en Europe. Donc là, c'était les cas des Calais, Patras, les squats de la banlieue de Rome et Paris, les Canards Saint-Martin. Mais donc voilà, on a décidé de restreindre au territoire européen, mais au début, l'idée, c'était d'ajouter aussi des expériences que moi, j'avais fait, qu'on aurait pu faire donc, dans ce travail d'enquête à Tinzawaten, à Oujda, à Gadez, donc dans d'autres points des carrefours de la migration hors de l'Europe. Donc voilà, ça partait du présupposé qu'il y avait énormément de points de similitude. Les deux principaux points de similitude, ce n'est pas forcément dans la construction en tant que telle. Bon, on voit par exemple, ils sont très similaires, Patras et Calais, mais il y a deux éléments de similitude profondes. D'un côté, ce processus des constructions destruction, invisibilisation qui est produit par les États qui hébergent malgré eux ces lieux. Donc, comme on l'a vu à Calais, un État qui détruit la jungle pour invisibiliser les migrants et donc en disant on va résoudre les problèmes et finalement les problèmes n'est absolument pas résolu, mais parce qu'il n'y a pas forcément un problème à résoudre mais une question à gérer de quelque façon, un accueil à mettre en place. Donc voilà, ça c'est des éléments. Donc ces camps, par exemple, ils sont cycliquement détruits avec des propagandes là aussi politiques en disant on veut résoudre les problèmes et finalement ces camps vont se construire, peut-être. C'est un peu comme les routes migratoires qui changent, peut-être un peu plus loin, peut-être plus éparpillées. L'histoire des jungles, moi, je la suis depuis 10 ans. On voit des jungles plus grands qui, après, sont détruits. Et puis, des éparpillements toute la région du Nord par Calaisie. Et puis, maintenant, on a un jungle de 6 000 personnes. Mais cette jungle a une longue histoire. Et de la même façon, on le voit à Patras. Et puis, la jungle s'est déplacée à Guiuminiza. Et la même chose, on le voit, par exemple, à Gadez. À Gadez, c'est un carrefour des migrations dans le nord du Niger où tous les migrants passent pour se rendre en Libye. Et là aussi, il y a des ghettos, des campements très similaires à Calais. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément dans la structure en tant que telle, parce que ça peut être différent au nord de la France et dans les Sahel, mais dans l'idée même, d'un côté, d'une situation de blocage aux frontières. C'est le cas qui a poussé à la construction de la jungle de Calais, mais c'est le cas aussi qui a poussé à la construction du campement de Oujda, où les migrants sont refoulés du Maroc vers l'Algérie, et donc à un moment, ils trouvaient un lieu de repli. C'est la même chose à Patras, où les migrants étaient obligés d'attendre des mois pour essayer de rejoindre les côtes adriatiques d'Italie, qui systématiquement les refoulaient. Donc voilà, la motivation qui pousse à la construction de ces lieux est très similaire dans tous ces points, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. La violation des droits fondamentaux qui s'est produisent, c'est aussi pareil. Et aussi, ce système de harcèlement continu qui est produit par les États et ce processus d'invisibilisation est très similaire. Donc, je pense que c'est une question intéressante à se poser parce qu'on a l'impression que finalement, les choses les pires se passent loin et finalement pas. Et d'ailleurs, quand souvent les journalistes m'interrogent sur ce qui se passe à Gadez ou au Niger ou à Oujda, je leur raconte et puis je l'invite à aller voir à Calais parce que c'est tout près et c'est en réalité assez tragique.
Merci. Je crois qu'on avait une dernière question. Mademoiselle, si vous avez le micro. Ah, vous avez le micro, bah, allez-y. Allez-y, monsieur.
Bonsoir. Donc, Timothée, je suis maître de conf en économie à Aix-Marseille Université. Je suis très sympathique. Enfin, j'aime beaucoup la réflexion de monsieur Puig sur le fait que finalement, la distinction entre migrants économiques et réfugiés est quelque part artificielle ou en tout cas difficile à établir. Et dans ce cadre-là, je m'inquiète un petit peu de l'effet négatif qui peut avoir effectivement actuellement entre... effectivement, on accueille de plus en plus de certaines nationalités ciblées, type syrien, et on refuse de plus en plus d'autres migrants économiques qui migrent pour des bonnes raisons, potentiellement. Et effectivement, il y a un consensus très large en économie pour dire que la migration, au sens large, est bénéfique aux pays d'origine et surtout aussi de ceux qui reçoivent. Et donc, face à cet état fait, je pense que c'est difficile de tenir le genre de discours à savoir, OK, c'est toute la Syrie, finalement, la taille de la Syrie n'est pas très grande, et donc on peut les accueillir. Je pense que la réflexion doit être plus large, doit être de dire potentiellement on doit pouvoir accueillir beaucoup de personnes, mais du coup, est-ce que la gestion se fait via des hotspots ou est-ce que la gestion se fait effectivement via une liberté de circulation, mais comment est-ce qu'on peut la gérer face à effectivement cet afflux de certaines nationalités à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'on peut concilier cette crise des réfugiés syriens, afghans et autres face à la nécessité de la migration économique pour beaucoup d'autres nationalités et pour nous-mêmes.
Merci. La réponse, qui se sent de répondre à cette question un peu large? Monsieur Puig est volontaire.
Non, mais la question est pertinente et je n'ai pas évidemment de réponse, mais je peux amener quelque chose aussi. Qui est que, de toute façon, en fait, la politique d'accueil, et donc la politique de privilégier censément les réfugiés par rapport aux migrants économiques, va impliquer un certain nombre de choses, qui est que les personnes, quand elles arrivent ici, ont en tête qu'il faut être réfugié, donc elles ont des récits. Et elles vont élaborer les récits pour pouvoir obtenir un asile. C'est-à-dire qu'ils vont être demandeurs d'asile, ils vont avoir leur récit, ils vont présenter leur récit. Et tous ces récits-là, la plupart du temps, sont travaillés en fonction de ce qu'on imagine et de ce qu'on sait, d'ailleurs, parce que c'est actualisé très régulièrement, de ce qu'on sait être la politique d'accueil du pays dans lequel on se trouve. Donc c'est pour dire aussi que si on regarde les choses du point de vue des migrants, des réfugiés, ils s'adaptent sans arrêt à l'évolution des législations et à l'évolution de l'accueil. Ça peut être, c'est pas une réponse directe, mais c'est quelque chose qui apporte un autre élément à cette réflexion qui est globale.
C'était Nicolas Puig qui clôturait cet échange aux côtés de Sarah Prestiani et Ala Caroline Abouzaki. L'animation du moment était confiée aux étudiants du master de journalisme juridique d'Aix-Marseille Université sous la houlette de Thierry Noir. Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.